C'est l'heure de votre émission hors format sur Radio Albigès. Hors format, c'est quoi ? C'est un peu de tout, mais pas n'importe quoi. Aujourd'hui dans votre magazine hors format sur Radio Albigès, suite et fin de notre escapade au domaine 5 Peyres à Cahuzac-sur-Vair, on retourne en compagnie du vigneron Charles Bonafont qui nous emmène à la découverte du domaine, entre les vignes et le chai, mais aussi le potager, les poules et les cochons, tout ce qu'il y a à voir vous l'entendrez, suivez le guide et ouvrez grand les oreilles. Alors donc du coup là on est, bah ça y est, hein, on s'approche des vignes là.
En haut de la butte. On est devant le petit mosaque qui a été planté du coup en 2011, donc ça j'ai récupéré, c'était déjà planté par mes parents. Ici, en gros, si on veut faire du début, je pense qu'il faut respecter sa terre, c'est quelque chose de très important. Donc pour la respecter, pour moi, c'est déjà de ne pas mettre de produits. Après ça, c'est vraiment, enfin c'est pareil, il n'y a pas de jugement, mais moi ce que j'aime, c'est vraiment de me dire que ça pousse parce que ça a envie de pousser, parce que ça a besoin de pousser. Et donc je préfère l'enrichir en mettant des graines. Avant, les graines, c'était une monnaie. Quand tu te dis que tu mets plein de graines dans certaines civilisations, tu sais, ils échangeaient les graines, c'était de l'argent en fait. Enfin de l'argent, c'était une monnaie plutôt. Et quand tu mets des graines dans ton sol, bah, tu te dis, bah, je t'enrichis quoi. Et du coup les graines poussent, on les sème juste après les vendanges, donc on met une quinzaine d'espèces différentes, donc si on se rapproche.
C'est-à-dire genre tu plantes des variétés
je
de...
Sème, je plante
ouais, tu
un arbre,
sèmes,
je
ouais,
sème
pardon.
Graines.
Ouais, exactement, ouais. Merci.
Et du coup, bah, là on entend, ça c'est les pailles, du coup bah, là en fait c'est des fèves, tu vas voir. Hein.
Alors, donc, les fèves, en fait, je vais étaler ma science, mais c'est pour éclater le sol, c'est ça pour,
ouais,
ça...
Bah, en fait il y en a plein, tu vois, ça c'est exactement, tu vois, et là donc elles vont se ressemer toutes seules.
Okay.
Donc en fait ça c'est des fèveroles, donc c'est plutôt fourragé, après nous on peut les manger en salade, sinon c'est plus pour les animaux ou alors pour ressemer. La fève c'est une légumineuse et du coup ça rapporte de l'azote au sol. Donc en fait ça va travailler avec des petites bactéries, ça fait des petites nodosités au niveau des racines qui vont, faire descendre l'azote de l'air vers le sol. Je prends toujours cet exemple là. Tu prends un pot de 5 kg de terre, tu le déshydrates bien comme il faut, tu mets un gland qui fait 20 grammes, t'arroses pendant 5 ans, tu fais pousser. Tu déshydrates, donc tu tues ton arbre, mais le but c'est faire l'expérience. Tu déshydrates ta terre, tu pèses. Tu auras 4,9 kg de terre et tu auras 2 kg d'arbre. Et en fait, la matière, elle vient de l'atmosphère. Et en fait, les plantes, vraiment, elles figent l'atmosphère sur terre, tu vois, elles le descendent, le carbone, l'azote, beaucoup, beaucoup d'éléments, et elles l'absorbent par les feuilles. Du coup, bah là, je vais juste faire un petit lien avec la bunyamie, mais en gros, si tu veux, les plantes, elles sont ouvertes la nuit, elles vont essayer de respirer, elles vont transpirer, elles vont se charger plein de choses la nuit, et en fait, le jour, elles vont se protéger du soleil, tu vois, donc le soleil, le jour, c'est la vérité, c'est-à-dire qu'il va fermer, il va être un peu écrasant, tu vas plus voir les astres autour, tu vas plus voir les étoiles. Et donc les plantes elles vont se protéger un petit peu de lui, tu vois, parce que sinon elles vont consommer toute l'eau qu'elles ont, après elles vont utiliser ce soleil pour faire la photosynthèse, pour faire des sucres. Donc en fait ça c'est des super panneaux solaires, bien mieux que les photovoltaïques. Et qui peut être transformé en énergie humaine derrière, et ça c'est encore mieux que du photovoltaïque, mais que de l'électricité, mais bon après hein. Là c'est à chacun de faire son chemin. Et donc en fait quand on parle de bunyamie et de calendrier de la lune etc, en fait c'est juste que les plantes elles sont beaucoup plus poreuses à ce genre de d'influence la nuit que le jour, et du coup en fait la lune elle fait le même cycle que le soleil, donc le soleil il fait un tour de la terre en un an, ok, c'est ce que je disais. C'est pas la terre qui fait le tour du soleil. Quand c'est moi qui suis sur la terre, je suis agriculteur, c'est le soleil qui tourne autour de moi.
Okay. Donc bon, je rappelle quand même qu'il y a des bases scientifiques. Hein. Je comprends ton point de vue.
Ça dépend de ton référentiel.
Non, mais je capte.
Tu vois ce que je veux dire.
Et en fait, juste dans l'astronomie, la terre tourne autour du soleil.
Ça, c'est sûr.
Une
ça,
vérité
c'est...
astronomique.
Ah non, mais ça, il n'y a aucun problème avec ça. Mais par contre, en tant qu'agriculteur, ben, pour moi, c'est pas le cas.
Ouais, ouais. Je comprends bien, mais on est d'accord.
Et du coup, donc chaque mois, il va passer devant une constellation. Donc chaque constellation, c'est lié à un élément. Chaque élément, on va dire, il y a la terre, l'air, l'eau et le feu. Chaque élément va être lié à un organe de la plante. Donc la terre, ça va être plutôt les racines, l'eau, ça va être plutôt les feuilles, l'air, ça va être plutôt les fleurs, et le feu, ça va être plutôt les fruits. Et donc chaque constellation, c'est une influence. tu vois.
La saison, ça, du coup.
Alors du coup, les saisons, c'est plus, c'est un cycle de les trois, tu vois. Chaque saison, c'est les trois successivement. Tu vois, la terre, l'air, l'eau et le feu, tu vois,
okay.
Successivement. Et du coup, le soleil va t'indiquer ça, ces saisons. Du coup, tu fais des petits cycles. Tu commences par le Sagittaire, c'est le plus bas. Quand le soleil est au plus bas de sa position, il démarre par le Sagittaire, donc c'est le feu. Après, ça fait si on les fait tous, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion et Sagittaire, je crois. Et du coup, ça fait je le refais. Ça fait feu, terre, air, eau, feu, terre, air, eau. Et du coup, c'est des cycles entiers. Bref, c'est ça les saisons. Et du coup, pour revenir à ça, du coup, chaque élément va renforcer un organe de la plante. Donc ce que je disais, l'eau c'est les feuilles par exemple, le feu c'est les fruits, prenons ces deux exemples là. Par exemple il pleut beaucoup, les plantes elles vont faire beaucoup de végétation, tu vois, elles vont faire beaucoup de feuilles parce que du coup il y a ce qu'il faut. Il fait très chaud, mais elles vont plutôt se concentrer sur le soleil, sur le fruit pardon, sur la graine ou le fruit, tu vois. Sauvegarder l'espèce, la vie en fait, mettre une graine et hop, c'est partir. Du coup, il y a plein des tonnes de trucs qui me viennent quand je dis ça, c'est horrible.
Vas-y,
on me dit qu'on va jamais aller manger notre bœuf bourguignon.
C'est quand tu veux, on prend ton rythme. Alors, peut-être juste, ça me fait juste penser à quelque chose parce que la dernière fois, j'ai entendu quelqu'un qui m'a parlé des saisons comme ça et relié ça à l'air, la terre, le feu et l'eau. C'était en médecine chinoise en fait.
Ouais, ah oui, bah, exactement. Mais du coup, ouais. Moi, t'as vu, pour mon moyen mnémotechnique, en fait, c'est juste l'air, c'est souvent la symétrie, c'est les épaules, le bassin et les chevilles. Tu vois, le feu, c'est le Sagittaire, le Bélier, je sais pas pourquoi, c'est comme ça.
Non mais c'est marrant parce que la dernière personne qui m'en avait parlé, c'était donc un ostéopathe et génial. Qui m'avait dit que en fait justement chaque saison ton corps il recevait ça comme la vigne en fait, j'ai l'impression comme tu le parles, et que parfois par exemple une fois je vais raconter ma vie, je m'étais fait une entorse et ça avait bloqué du coup la circulation des trucs et lui il pouvait savoir en touchant il disait ça t'est arrivé à telle période, ça a bloqué la circulation donc du coup t'as eu un manque de fer parce que machin, tu vois. Je sais pas si ça te parle du coup.
Si, mais ça me parle énormément parce que j'adore ce genre de truc et ça m'intéressait beaucoup, mais là j'ai plus trop le temps, j'aimerais bien y replonger. Mais oui, c'est. Je pense que ça c'est plus des sensibilités. Après c'est vrai que quand t'es très cartésien et que ton but c'est de la rentabilité, ça va pas t'intéresser. Mais du coup, en fait, ce que je dis t'intéressera pas forcément.
Ah bah,
mais bon, on fera du business ensemble si tu veux. Mais non, mais je rigole. Mais,
on n'est pas là pour parler business, ça te tombe bien.
Exactement. Non, mais je parlais de celui qui était cartésien. Mais voilà, la sensibilité, je trouve que c'est des choses, c'est des choses qu'il faut savoir épanouir en soi. Et c'est peut-être le côté féminin, mais je pense pas que ce soit négatif.
Ouais, parce que justement, c'était une autre question à laquelle je pensais, mais parce que quand je t'entendais raconter ton parcours, t'as parlé de ta grand-mère, Madalton, t'as parlé de ta mère, Astrid, t'as parlé des personnes qui sont là autour de toi en ce moment, il y avait beaucoup de prénoms féminins.
Ouais.
Donc t'aimes bien travailler entouré de femmes, j'ai l'impression. Est-ce que c'est... Non mais je dis ça comme ça, mais...
Non, en vrai c'est super casse-couille les
est-ce
nanas.
Est-ce que t'aimes d'être dans un environnement féminin? Enfin, c'est toi qui...
En fait, si tu veux, moi j'ai aucun... Enfin sincèrement, je sais pas pourquoi, j'ai aucun a priori là-dessus. C'est-à-dire que... En fait, une personne, c'est une personne, et pourvu qu'elle soit en capacité de te partager ce qu'elle ressent, je trouve ça génial, tu vois. Plus que dire c'est un garçon, c'est une fille, il faut qu'il fasse ça, il faut qu'il fasse ça, tu vois. Et par exemple, comme c'est une petite communauté en ce moment, parce qu'elle est woofer, etc., du coup, il n'y a vraiment aucune règle. Même si Lolo a beaucoup de mal à faire la vaisselle et à faire à manger, on a un planning, et en fait, c'est chacun à son tour, tu vois. Alors après, c'est vrai que moi, je m'échappe souvent. Mais c'est plus par confort que par... Non, je rigole. Mais on essaie... En fait, il n'y a vraiment pas d'a priori là-dessus. Et du coup... Mais je trouve que c'est une faculté, la sensibilité, beaucoup plus acceptable socialement chez les femmes que chez les hommes. Tu vois, les hommes, on va dire « t'es une tarlouse ». Oui, et alors ? Mais
la virilité mal placée, ça, c'est
le après, fléau. Non, mais c'est pas... Oui, après, c'est un concept de vie, mais bon... Ouais, non, je pense que oui, c'est ça. Enfin, bon, non, là, je pense pas. C'est juste comme ça.
Ok. Non, mais parce que moi, je trouve que c'est important aussi. Je te rejoins complètement. Il y a une sensibilité, peut-être féminine, qui n'est pas masculine, quoi, tout simplement. Quoi. Et du coup, ça peut changer de travailler. T'es plus sur un modèle matriarcal que patriarcal, quoi.
Ouais, ça, je sais pas non plus. Parce que, tu vois, le matriarcat, c'est quand même un sexisme féminin, tu vois, finalement. Tu vois, toutes ces. Alors, je suis d'accord qu'elles ont du temps à rattraper et des choses à faire valoir qui sont pas encore évidentes pour tout le monde, Mais finalement, faut pas tomber dans le travers opposé qui est de...
Oui, d'être aussi con que les hommes, tu vois. Non, moi je voyais ça surtout dans le style de se dire que ben, en fait, tes modèles de référence sont plutôt des femmes que des hommes, pour juste contredire avec le patriarcat, le bon père de famille, voilà, qui est là, qui était le pilier de la vie. Et c'est bien que ça tourne un peu qu'il y ait les deux.
Oui, non, ça c'est évident. De toute façon, il faut tout, c'est l'équilibre, la vie. Et du coup, je reviens.
C'était la petite parenthèse.
Ouais, et je reviens rapidement à mes.
Aux vignes.
Aux vignes, et du coup, je reviens aussi du coup, au cycle du coup, cosmique. Et du coup, en fait, la Lune a fait le même cycle que la. Du coup, là, vous n'allez pas me contredire, c'est la Lune qui tourne autour de la Terre. Et donc, elle a fait le même cycle que le Soleil, mais du coup, tous les 28 jours. Du coup, dans le mois, en fait, tu auras quasiment un. Enfin, dans tous les 28 jours, tu auras exactement une année lunaire, tu vois, à la place du Soleil. Enfin, je ne sais pas si j'ai été clair, c'est-à-dire que la Lune, elle va faire exactement le même chemin en un mois que ce que fait le Soleil en un an. Et du coup, tous les 2-3 jours, en fait, elle va te donner une influence différente. Et c'est là vraiment où on va travailler, parce que du coup, c'est la nuit que les plantes sont poreuses. Du coup, si tu veux donner une orientation à ta plante, tu vas vraiment travailler en fonction de la Lune pour vraiment lui dire, bah, écoute, là, ça y est, on a fini de faire la végétation, on va s'orienter vers le raisin. Et du coup, on a moyen d'agir avec des préparations qui vont être de la bouse de corne qui s'adresse vraiment au sol. C'est-à-dire que dans nos modèles d'agriculture actuels, c'est plus, enfin tu vois, les animaux, c'est pour moi, c'est primordial, c'est essentiel. Et en fait, la terre, elle doit avoir des animaux, parce que c'est les plantes, c'est la grande vie, en fait. Quand elles sont belles, et eh bien les animaux vont bien, parce qu'il y a eu beaucoup de production. Et du coup, tu vois, tu peux faire des, enfin tu vois, ça peut se reproduire. Tu auras cette année, par exemple, beau printemps, pas de chasseurs. Du coup, tu as plein de lièvres, tu as des renards, tu vois, tu as de la vie, en fait, c'est génial. Et en fait, bien que la chasse ait son utilité, évidemment, mais du coup, je me perds, mais les animaux, en fait, ils doivent passer sur les parcelles. Et nous, dans le modèle agricole actuel, en fait, bah, y a plus d'animaux, en fait. Tu vas avoir des sauterelles, tu vas avoir des petits mulots, tu vas avoir des faucons, etc. Mais de moins en moins, et plus c'est aride, plus tu as une seule espèce, et bien plus tu as, en fait, le contaminant. Du coup, plus tu es obligé de régler, de déformer l'environnement. Alors que je trouve que quand tu crées un équilibre, bah, voilà, nous, vous voyez pas le paysage, mais en fait, bah, en face de nous, on a un petit... Voilà, ça, c'est mon voisin. Du coup, lui, il est coopérateur, il a besoin de vendre du raisin, il a besoin de vivre, en fait, de la production de raisin. Donc en fait, tu as voilà, un petit océan de vignes, c'est 20 hectares d'un seul tenant, tu as deux haies. Voilà, c'est un petit peu de la monoculture, alors que bah, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment casser cette monoculture et de retravailler. Bah, voilà, tu as une bande d'herbes, une bande d'arbres, une partie de fleurs, de nouveau une bande d'arbres, une culture, etc., etc. Et donc après, ces cultures vont nous servir à faire des céréales pour les animaux. Après, bah, le potager, c'est pour nous. Les fruits, ça sera pour faire des confitures et de l'agneau. La vigne, c'est pour déjà boire nous et après en vendre un peu. Tout ça, tu vois, il y a les truffes, il y a pareil, remettre des arbres. Ça, les arbres, c'est hyper important. Les arbres, bah, en fait, comme on ressème énormément de plantes dans les vignes, du coup, tu vas avoir plein de céréales. Du coup, tu as plein de petits rongeurs. Mais du coup, tu fais revenir beaucoup de serpents, tu fais revenir pas mal de renards. Parce que les renards, ils sont pas si mauvais que ça. Si tu as bien fermé ton potager, en vrai, ils te dérangent pas. Et par contre, ils vont défoncer tout ce qui est mulot, musaraigne, etc. Et ça, c'est plutôt... Enfin, tu vois, c'est important, en fait. Et pareil, tout... il n'y a plus trop de perchoirs de grands arbres. Tu vois, tu as quelques haies, tu vois, quand tu regardes, mais tu vois, on peut presque les compter. Alors qu'en fait, il en faudrait partout. Et du coup, les oiseaux, ils peuvent vivre là-dedans. Et du coup, les rapaces, eh bien, ils vivent en hauteur, ils regardent. Et puis après, bam, ils vont fondre sur leur proie, tu vois. Et du coup, ils vont te réguler, en fait, simplement. Et donc après... Une fois qu'on a respecté notre sol en semant nos graines, ça va pousser en hiver. Au printemps, on roule un rang sur deux. Donc, tu vois, ça fait cette espèce de paille un peu riche, là.
Rouler, c'est quoi? Comment tu fais ça?
Le roule, ben, en fait, tu vois, ça s'appelle un rouleau faca. C'est une machine qu'on a soudée avec mon frère. Et du coup, ça passe vite. Et en fait, ça va juste pincer les plantes. Et du coup, elles vont rester couchées au sol. Au lieu de les couper et d'induire une repousse, comme les jardins à l'anglaise avec de l'herbe nickel, nous c'est plus un peu freestyle où en fait le fait d'avoir couché et pincé, la plante elle va juste faner et faire de la graine plutôt que, bah, tu vois, ça s'entend, et là on est juste par terre, quoi, hein. Ouais. On n'est pas dans la grange avec la paille, et du coup d'ailleurs t'en as pris une petite
Et sur les cheveux du micro.
Exactement. Et du coup, bah ça, en fait, cette paille va se dégrader sur quasiment 2 ans. Et du coup, en fait, ça, tous les ans, en fait, on va rajouter des couches. Et en fait, tu vas créer de la matière organique. C'est-à-dire que le cycle de la terre, enfin, oui, c'est ça, de la vie de la terre. En fait, la feuille tombe à l'automne. elle va tomber au sol, elle va être attaquée par des champignons. Donc on passe de végétal à organique en décomposition grâce aux champignons. Ensuite, tu vas avoir les bactéries qui vont attraper ça, donc organique en décomposition, elles vont minéraliser en fait ces molécules-là. Et après, du coup, tu auras toutes les racines en dessous et d'autres champignons qui vont capter ça et le refaire dans la végétation, le retransmettre. Et du coup, en fait, tu as un cycle aérobie sur 10 cm qui est hyper riche, et plus tu l'enrichis, plus il va être riche. Tu vois, c'est comme une forêt, tu as des litières énormes, tu as plein de champignons et tu as juste à ramasser, en fait, à cueillir. Et du coup, si tes sols sont riches, eh bien, ils vont pouvoir nourrir tes vignes. Et en fait, ton raisin, du coup, il aura le goût de ton sol. Voilà. C'est une réflexion très bête, hein. Mais du coup, si tu apportes, tu vois, là, on reprend un petit peu des vignes à un voisin qui avait un modèle d'agriculture un petit peu différent, c'est-à-dire que ben, lui, il travaillait un petit peu le sol, et puis après, ben, il désherbait en chimique, et puis en fait, il apportait l'engrais en foliaire, c'est-à-dire qu'il mettait NPK, les engrais classiques, pour avoir une vigueur importante et des caractéristiques de vigne données. Mais ben, en fait, du coup, c'est un calcul, en fait, la terre, ça te sert de support et de collecte d'eau, et après du coup c'est ce que tu apportes à la vigne qui va faire que ce que tu auras dans ton raisin. Et en fait, nous, c'est pas du tout ça, c'est plutôt le sol qui va être riche et qui va pouvoir, enfin, la vigne va pouvoir s'épanouir dessus. Et donc voilà, c'est juste deux modèles d'agriculture différents. Donc cette paille, elle va s'accumuler, se dégrader. Et quand on a vraiment des pressions au niveau des chaleurs, c'est-à-dire que nous, on est quand même dans le sud. Alors, on n'est pas dans le sud-sud de l'autre côté de la montagne noire où il peut y avoir des oliviers, bien qu'on commence à en retrouver ici, mais où ils n'ont vraiment pas beaucoup d'eau. Alors, à part cette année, là, ils se font défoncer parce qu'ils n'ont pas vraiment l'habitude et ils sont pas forcément pas le matériel adapté, tu vois, je pense. Et du coup, là, ils ramassent vraiment, on n'aura pas beaucoup de vin du sud. Et du coup, quand on a vraiment des grosses contraintes hydriques, bah, vas-y, marche dedans, je te jure, c'est un régal, tu vois.
Ouais, moi, donc en fait, toi, t'es pieds nus, je tiens à le dire aussi, parce que
c'est un régal.
Toi, t'es pieds nus, moi, je suis en pompe et c'est vrai que je sens rien, mais tu te balades souvent pieds nus sur ton domaine.
Du coup, t'as des textures de sol, tu vois, on dirait de la semoule, en fait, tu vois, c'est très. Du coup, t'as de la matière organique, alors que nous, on est vraiment sur des argiles très blancs. Ici, il y a. Tu vois, j'ai fait la tranchée pour passer les gaines électriques, là. On a 20 cm de sol, et après c'est que du caillou, c'est la roche mère, c'est les paires, tu vois, c'est 5 paires. Et du coup, en fait, le fait qu'on puisse avoir du coup cette matière organique qui va enrichir ce sol, cette texture du coup très humifère, ben, ça fait que ben, tu vois, là c'est frais, on garde de l'eau alors qu'il fait hyper sec, du coup il y a une disponibilité en eau, et d'ailleurs on travaille un rang sur deux. Le but, en fait, c'est voilà, trouver l'équilibre, et encore, tu vois, il y a plein de pailles de cette année qui sont en train de se dégrader parce qu'en fait on sème tous les rangs. Voilà. Une fois qu'on a ça, on peut commencer à travailler la vigne. Donc la vigne, voilà, pour moi, pour la vigne, c'est remettre le geste de la main au centre de nos préoccupations. C'est-à-dire que, en fait, on sélectionne nous-mêmes les bourgeons, on fait nous-mêmes les américains. Donc les américains, c'est les racines, c'est un porte-greffe. C'est-à-dire que c'est la racine qui va être adaptée au type de sol. Est-ce que je suis compréhensible?
Ouais, je comprends bien. C'est-à-dire qu'en gros, tu as le pied principal sur lequel on va greffer ensuite.
Exactement.
Les autres, qui n'est pas forcément.
C'est pas la même variété.
Du même.
Exactement.
Variété,
ouais. Donc en fait, on dit américain parce que simplement, c'est le phylloxera vient d'Amérique. Et donc les vignes qui étaient plus adaptées au phylloxera, c'était celles qui venaient de là-bas. Donc ils les ont ramenées. Ils ont essayé de trouver. Parce que là-bas, il n'y a pas très peu de calcaire, comme c'est un continent assez récent. Alors que le calcaire, c'est la sédimentation. Et donc en fait, en France, tous les grands terroirs à vignes, enfin, la majorité, pas du tout tous, hein, pardon. Mais la majorité des grands terroirs à vignes, c'est sur les calcaires, parce que les calcaires, c'est des coteaux et c'est souvent très drainant. Et du coup, en fait, l'eau, enfin la vigne, au lieu de. Bah maintenant, en fait, au lieu de continuer à faire de la végétation, elle va juste se concentrer à faire du raisin, tu vois. Parce que du coup, il n'y a plus tant d'eau qui te dit fais de la végétation. Tu vois, on fait des petits liens aussi dans la conversation. Et du coup, vraiment, les terroirs à vignes, c'est ça, c'est des coteaux drainants. Et du coup, la vigne, elle va se dire, bah ok, à partir de maintenant, j'ai plus les ressources nécessaires pour faire que de la végétation, et du coup, je vais me concentrer sur le fruit. C'est pour ça que quand tu plantes dans des plaines, soit il faut augmenter la densité pour que tu aies vraiment une pression de concurrence, soit en fait, tu es plus dans une vigne à métabolisme de production de végétation que de raisin. Tu vois. Et du coup, il passe toutes les semaines essimées, taillées, et du coup, tu stresses, enfin voilà. T'es pas forcément sur un développement harmonieux de la plante, t'es plus sur un développement productiviste d'objectif. Mais voilà, après là c'est pareil, il n'y a pas de jugement, c'est juste un petit constat que moi je me suis fait, et voilà. Du coup on a la chance quand même, j'ai la chance d'être arrivé ici sur 5 paires, donc voilà, c'est des grands, c'est vallonné, c'est des coteaux.
On l'a pas dit encore, combien t'as d'hectares de vignes là?
Ah ouais, alors un peu trop, on va commencer par ça. Non, en fait, bah, quand j'ai repris, j'avais 7 hectares, j'ai dû arracher pas mal de vignes à cause de la flavescence, donc une maladie de la vigne à laquelle il faut vraiment faire attention. Parce que ça te détruit tes vignes très rapidement, et du coup il faut que soit tu en replantes, soit que tu récupères au voisin, soit, enfin bref, c'est assez compliqué. Donc moi, pour garder l'inertie du domaine, c'est un peu moche, mais bon, t'as des contraintes avec la banque, et donc il faut quand même que tu brasses un volume suffisant pour que ce soit assumé, et que voilà. parce que j'ai pas de revenus extérieurs, donc il faut bouffer. Hein. Et donc j'ai repris quelques parcelles aux voisins. Du coup là c'est là où j'ai vraiment découvert ce que c'était que l'agriculture conventionnelle, parce qu'avant mes parents ils ont commencé en 2000, ils étaient en conventionnel, mais voilà, ils réfléchissaient à comment ils travaillaient. En 2003 ils ont arrêté tous les produits chimiques, en 2008 ils avaient la certification. Donc j'ai quasiment toujours connu ici bio avec des insectes. Enfin tu vois, si tu passes un peu vite là, tu as des sauterelles qui sautent partout, tu passes tes mains dans l'herbe, t'as plein d'insectes en fait, t'as de la vie quoi. Du coup, quand j'arrivais dans les parcelles des voisins conventionnels que je récupérais, eh bien déjà tu sèmes des graines, ça pousse pas. Donc là, tu te poses des questions. Tu as des sols hyper tassés, hyper compacts, tu vois, parce qu'en fait, c'est des parcelles de tracteurs à répétition, sans forcément chercher à aérer, à éclater un peu toutes ces mottes. Et du coup, tu fais des espèces de semelles très tassées. En fait, voilà, c'est ça. Le sol, c'est un support. C'est même plus un outil. C'est même plus vivant, tu vois. C'est juste, c'est du sol mort. Et là, tu vois, le tournesol du voisin, il a arraché une vigne, moi aussi. Et ben, il a planté le tournesol. Donc lui, il met de l'engrais chimique, etc. Ben nous, les tournesols, ils sont plus beaux chez nous que chez lui. Et bon, tu lui dis pas, mais voilà. Enfin, après, ils le voient. Hein, ils savent très bien. Pourtant, il a travaillé plein de fois en tracteur et tout. Enfin, tu vois, c'est juste des exemples comme ça. Des sols vivants font que, en fait, t'as une vie riche, tu vois, t'as de quoi vivre, de te nourrir, et parce que les plantes vont bien dessus. Et voilà, bref, après, c'est vrai qu'il faut adapter un peu sa conception du travail, je pense. Mais après, bon, je dis pas que j'ai la vérité, moi, je pense que ça fonctionne pour chez nous ici. Voilà, après, si on parle de biodynamie rapidement, je pense que le premier concept de la biodynamie, c'est comme la paysannerie avant, c'était s'adapter à son lieu, en fait, aux contraintes de son lieu, qui seront pas les mêmes à 2 km ou dans la vallée, ou tout en haut, encore plus haut, ou sur le caillou, ou sur des argiles. Et du coup, voilà, pour moi, c'est ça vraiment le bon sens paysan, c'est de s'adapter à son endroit, tu vois. Et ses contraintes, avec à savoir que en été tu prends des orages normalement, donc il faut que tu vois, et je pense que ça s'était fait traditionnellement jusqu'à il y a 70 ans, et on s'est complètement perdu, et en fait on a cherché à standardiser tous les modèles, et du coup en fait on est sur de la productivité consommation, objectif rentabilité, il n'y a même plus de question de satisfaction client, et du coup d'ailleurs c'est très moche mais c'est vrai. Et du coup c'est malheureux.
Up in the morning, out on the job, work like the devil for my pay. But that lucky old son has nothing to do but roll around heaven all day. Fuss with my woman, toil for my kids, sweat till I'm wrinkled in gray, while that lucky old son has nothing to do but roll around heaven all day. Good Lord up above, can't you know I'm pining? All in my eyes. Send down that cloud with the silver lining. Lift me to paradise. Show me that river. Take me across and wash all my troubles away. Like that lucky old son, give me nothing to do but roll around heaven all day.
Good Lord above, can't you know I'm pining? Tears all in my eyes. Send down that cloud.
That river, take me across and wash all my troubles away. Like that lucky old son, give me nothing to do but roll around
heaven, heaven, heaven.
Oh, heaven all day.
That Lucky Old Sun, un classique de la country américaine, ici interprété par le grand Louis Armstrong, un hommage aux travailleurs et aux travailleuses de la terre. Et tout de suite sur Radio Albigès, dans votre magazine hors format, on retourne en compagnie du vigneron Charles Bonafont, qui nous présente le domaine 5 Peyres et le processus de création de leur vin en biodynamie.
Du coup, la vigne, on repart sur nos Américains, je me suis pas perdu.
Non, t'inquiète, y a pas de souci.
Donc, nos Américains,
des heures.
On s'est ramené donc pour servir de support de porte-greffe. Donc voilà, et du coup, ils ont dû beaucoup les croiser parce qu'on est sur des terroirs très calcaires ici. Parce que la vigne, c'est Vitis riparia, Vitis lambrusca et je sais plus lesquels, Berlangerie.
Ça, c'est les variétés des cèpes que vous prenez pour
utiliser en racine. Okay. Et bref, ils les ont croisés pour avoir ceux qui sont résistants au calcaire. Parce que ici, les calcaires, le calcaire, quand t'as trop de calcaire dans le sol, le fer ne monte plus dans les feuilles et du coup, ça s'appelle la chlorose. Ça te fait des feuilles jaunes et la vigne, elle le souffre énormément, tu vois. On peut voir, tu vois, là-bas il est sur le coteau, tu vois, il y a une toute petite tache en plein milieu, tu vois. Bref, ça se voit, c'est dans les parcelles, ça se voit. Nous, il y a des vignes, de temps en temps, ponctuellement, qui le vivent très mal aussi, le calcaire. Et donc, les solutions pour ça, soit c'est carrément de mettre du fer sur les feuilles, soit de remettre de la matière organique. Voilà, et pour moi, la matière organique, c'est une très bonne solution.
Donc, matière organique, c'est fumier.
Fumier, les pailles, parce qu'en fait, ça, c'est de la matière organique, ouais. Tu vois. Ça fait en densité, tu dois avoir un mètre cube, enfin, tu vois, t'as un mètre cube de hauteur par. Enfin, non, t'as un mètre de hauteur quasiment au printemps par. 1,50 m de largeur, et ça, t'as ça sur toute la parcelle. Donc, en quantité, c'est vachement mieux que du fumier. Tu vois, si on fauchait et qu'on ramasse les frais, t'as plus de. Je sais pas combien de tonnes de matière organique tu rajoutes tous les ans, tu vois. Et c'est génial en fait, c'est juste à semer des graines. Tu vois, enfin, j'adore. Et voilà. Et donc ensuite, nous, on va choisir les bourgeons qui nous plaisent sur les vignes de cépages français, donc là, ceux qui font du raisin, qui est bon pour faire du vin. Donc là, ça s'appelle des sélections massales, c'est-à-dire que tu choisis des parcelles qui sont belles, qui sont anciennes, tu regardes celles qui n'ont pas de maladies, qui sont en forme. Tu vois, ça par exemple, tu vois là cette année, quelques taches de mildiou. Donc ça, si tu vois, moi je vais essayer de... Tu vois, ça fait des petites taches d'huile.
Ouais.
Donc après, là, la feuille, elle va sécher entière.
Ok.
Donc ça endommage quand même pas mal de surface. Et ça, c'est trop, c'est la grêle, tu vois.
Ah ouais.
Donc, ouais, ça...
Frêle,
ouais. Bon, ça va encore. Tu vois, il y a d'autres feuilles qui sortent. Ça va, les raisins, ils ont pas trop été touchés, on s'en sort pas trop mal, tu vois. Non, franchement, c'est joli. Ça, c'est du mosaïque.
Okay.
Du coup, en fait, par exemple, si j'étais dans une vigne comme ça, moi, je choisirais pas forcément ce pied-là parce qu'il a eu un petit peu de mildiou, alors que d'autres, ils vont pas en avoir. Et du coup, je vais choisir ces bourgeons-là qui seront plus résistants d'eux-mêmes. Et après, l'idée, c'est vraiment pas choisir sur des parcelles qui ont été clonées. C'est-à-dire que maintenant, aujourd'hui, pour planter une parcelle, tu commandes à ton pépiniériste, tu as 10 000 fois le même porte-greffe américain et tu as 10 000 fois le même bourgeon cépage. Tu vois, du coup, tu as une grande pauvreté. Du coup, ça veut dire que si tu travailles tout le sol ou que tu désherbes, ben en fait, tu vas avoir plus qu'une seule espèce sur ta parcelle en entier. Et du coup, tu n'as plus du tout d'équilibre. Tu n'as plus de notion de champignons qui vont venir rééquilibrer. Tu n'as plus d'herbe qui va travailler, décompacter le sol, etc. etc. Et du coup, c'est là où je pense que tu commences à avoir vraiment des gros problèmes. Où du coup, la chimie est utile pour pallier les problèmes. Tu vois. C'est comme la médecine actuelle, c'est ça. En fait, tu mets des pansements sur des voyants qui s'allument. Tu vois. Tu les éteins, alors qu'en fait, c'est la conception qu'il faudrait revoir, tu vois.
Mais ça avec la médecine chinoise.
Ça veut dire aller très très loin, tu vois. C'est dans les raisonnements et dans les réflexions et aussi dans l'acceptation du fait qu'il y ait des contraintes, tu vois. Pour la vigne, nous, tu vois, on va travailler les sols un rang sur deux. Je te dis quand il y a de la pression d'eau, mais tu vois, des années comme 2016 où il n'y avait pas de pression d'eau, du coup, tu n'es pas obligé de travailler. Tu fais que rouler finalement. Tu vois, ouais. Tu vas pas aller gratter le sol. On décompacte un petit peu juste sur les passages de tracteur, tu vois. Après au niveau des traitements, t'as vu en arrivant ça puait grave, c'est parce qu'il y avait un purin d'ortie, enfin de prêle, de consoude, n'importe quoi. La consoude qui est une plante, c'est un déstressant hydrique donc, et aussi c'est un cicatrisant, donc pour les vignes qui ont pris la grêle en fait ça va les aider à au moins fermer les plaies et en même temps il y a pas mal d'oligo-éléments comme l'ortie, donc en fait ça va juste faire un peu d'engrais foliaire quoi, naturel.
C'est après les purins végétaux quoi.
Ouais, exactement.
Donc, tu fais plusieurs macérations comme ça et tu sais quoi, tu le pulvérises après, tu
exactement mets, pulvérise ouais. Après du coup on utilise un petit peu de cuivre, un petit peu de soufre, donc ça c'est les molécules qu'on importe et que j'aimerais bien justement bientôt quand j'aurai la place de les en fait faire carrément nos préparations, notre bouillie bordelaise, parce qu'en fait c'est juste de la chaux avec du cuivre. Et du coup nous comme on est sur des terroirs calcaires, et ben tu prends du caillou par terre, tu le chauffes, tu sais, tu le brûles, et après du coup tu fais de la chaux active, chaux vive, et après tu l'éteins et tu mélanges avec de la bouillie bordelaise, enfin avec du cuivre, et du coup ça fera ta bouillie. Bref, mais ça, je veux apprendre à le faire et du coup, ce sera bientôt.
Ah, c'est génial.
Pareil, après, du coup, tu apprends que voilà, Rome ne s'est pas faite en un jour. Non. C'est très romain aujourd'hui, je sais pas pourquoi.
Non, ça mais tu vois, fil rouge.
En fait, on construit les choses petit à petit et c'est comme ça que c'est stable. Si tu veux, si une pyramide repose sur. Des fondations bancales et bien ça s'écroule et donc je pense qu'il faut vraiment construire les fondations et après petit à petit du coup on est allé très très vite à la vigne mais
ouais mais après écoute
on a quand même de la matière
je me dis si jamais ah ben bien sûr
les gens ils tiennent jusqu'au bout là
ça fait une heure et demie qu'on parle même plus je crois que je vais le faire en deux épisodes tu vois. Ouais. Et ben voilà
on continue c'est là où on vit au potager
vas-y on continue ouais
on s'en mange ensemble après tous
je lui prends du temps là je suis désolé mais salut!
Ah, regarde, du coup, ça c'est les petites greffes.
Ah yes!
Tu vois, là j'ai greffé ça, là. On va en prendre un qui a marché.
Ok.
Tu vois, en fait, du coup, alors, là c'est l'américain.
Ok.
Tu vois, donc là il commence à peine à faire les racines.
Donc ça fait comme des boutures en fait.
Tu fais une boutue et en fait, là tu vois, ça s'appelle du calme, mais comme il prend l'air là, tu vois, il est pas du tout. En fait, comme je les faisais, tu vois, ça fait comme ça. Ça fait des tissus comme ça qui se. Tu vois, au niveau de la soudure, tu vois. Ça fait des tissus qui se. Et après, une fois qu'ils travaillent ensemble, moi, ça fait.
Ok, ça, c'est et donc et ça
c'est la greffe à l'anglaise compliquée. Ouais. Et après ça, du coup, on le met en terre et zou. Ouais, ça, c'est du mosaic. Du coup, ça, c'est, je crois que c'est, il y a SO4 et 41B.
Oula, là, tu rentres loin dans la technique, là.
Ouais, ouais du coup, bah, après la vigne, après le geste de la main, c'est pareil, c'est taillé toujours à la main. C'est, passer du temps à faire attention à elle, à l'orienter. Tu vois, là, on n'a pas encore tressé. Tu vois comment c'est le bordel.
Ouais, ouais.
Et ça, c'est du merlot. Le merlot, c'est un cépage qui a un port très tombant. C'est pas du tout ferme comme du brocol ou du duras. Ça va vraiment être mou, tu vois. Et pareil, mou et souple, tu vois. Et du coup, le merlot en bouche, il est très souple. C'est ça qui est assez marrant. Très consensuel, tu vois. Tu as un petit peu côté un peu sucré, un peu... Alors que le brocol, ça va être très droit, très, très frais, très ciselant, tu vois. Enfin, voilà. Ça, moi, j'aime beaucoup aussi faire les associations entre les cépages. Et du coup, voilà. Bon, c'était le petit lien parce qu'on passait devant la vigne.
Ouais.
Tu vois les artichauts, là ? Là, c'est tous ceux qu'on a pas ramassés.
Ah bah oui.
T'as vu la couleur ? J'adore le violet.
Ah, ils sont magnifiques.
Et là, on en a mangé. Je pense, je sais pas combien on a sorti, mais...
Ah, mais vous avez une haie entière d'artichauts, en fait. Genre, le truc, il fait quoi, 150 mètres, là ?
Mais j'hésite à doubler. Parce qu'en vrai, en conserve, c'est trop bon, hein. Si tu les mets dans l'huile, là,
ouais.
Oh là là.
Et tu les prépares juste, tu gardes juste le cœur.
Tu les blanchis au vinaigre, ouais, c'est ça, tu les pars et en avant.
Oh là là, ah, mais votre jardin. Alors là, on arrive dans le potager, du coup, pour dire un petit peu. Hein,
donc c'est pas moi qui fais le travail, là, moi j'ai juste travaillé la terre un tout petit peu, puis après j'ai laissé faire.
La taille de ces betteraves, quoi.
Ouais, c'est trop belle. Hein. Et en fait, ça, c'est un deal que j'ai avec un voisin, tu vois. Lui, il me file du fumier et moi, je file du pinard. Et en fait, avant. Ben avant, j'aimais beaucoup moi cette notion aussi de ferme agricole, ferme viticole. Hop là, je me suis. En fait, tu vois, genre il y avait les animaux. C'est pareil, parce que je reviens là-dessus, mais du coup, les animaux c'est hyper important parce que les animaux, ils se nourrissent du végétal et après dans les excréments, t'as tout ce qu'il faut pour réenrichir le sol, pour réensemencer en fait. Eux, ils digèrent l'herbe, ils en prennent de l'énergie, ils le transforment en viande et en même temps, quand ils dans les déjections, bah, t'as toute cette faune et flore de micro-organismes qui va pouvoir relibérer tout ça et toute la matière organique bloquée pour le sol où elle va le redynamiser. Et du coup, en fait, c'est des cycles, tu vois. Et avant, la richesse d'une exploitation, d'une ferme, ça se mesurait à la taille du tas de fumier. C'était aussi simple que ça. Okay. Et c'est vrai, tu vois. En fait, quand tu as plein de fumier, du coup, tu le remets sur ta terre et du coup, l'herbe va être belle et contente, tu vois. Et, ou les céréales ou n'importe quoi. Et voilà, quoi. Donc, là, on y met du fumier, c'est tout, quoi.
Mais là, il est trop beau, ce jardin. Je sais pas, pour décrire pas un peu, c'est là, tu vois que c'est un jardin en perma, quoi, comme on dirait.
Ouais.
Mais voilà, plein de petits rectangles. Il n'y a pas de... C'est pas propre. Il n'y a pas une bâche en plastique qui vient dessus pour empêcher les trucs de pousser.
C'est un peu partout. Ça se voit que c'est vivant. Les poireaux, on les paye pas, je sais pas pourquoi.
Et puis, ouais, il y a aussi plein de fleurs, quoi. Il y a plein de fleurs.
Là, c'est les camomilles, ça va faire les tisanes. Après, du coup, les salades, les bleuets. Ça, c'est les radis. Ça, c'est la...
Où c'est ce qu'il y a derrière, là, non ? À côté de la salade, là, la petite fleur orange qui pousse.
C'est les soucis.
On dirait. Autant pour moi.
Ça, c'est les mêmes que ça. Ça, c'est la facélie. Après, du coup, les haricots, les patates, il y a plein de poireaux. Les betteraves qui sont solides, ça, c'est les choux. La rangée de maïs. Après, du coup, il y a les pommiers qui vont pousser, faire un peu d'ombre, là. Après, on va faire tout plein d'abricotiers. Au fond, c'est des grands arbres.
Là, vous allez faire un verger, là, derrière, du coup ?
Ben, un petit, ouais.
Stylé.
Ouais, ça va être trop cool. Après, du coup, il y a tout, là. Les courgettes, c'est un truc de fou. On a commencé, je pense, les courgettes, je pense qu'on en a au moins une énorme qui doit faire un kilo tous les jours. Au moins.
Et alors, petite question pratique. Donc, sur les pieds de tomates, là, tu mets des tuiles, mais renversées.
En fait, non, mais les tuiles, au début, c'était genre.
Ouais, c'est
là, on a triché.
Les...
Ouais, on a mis. Enfin, on n'a pas été raisonnable, mais ça a très bien marché cette année. On a mis avant les seins de glace. Les seins de glace, en fait, c'est. Oui. C'est 12, 13, 14 en mai. Donc, c'est quand même hyper tard, mais en fait, c'est une période où il peut encore geler. Et du coup, si tu mets les trucs au potager avant, tout ce qui est gélif, eh ben, ça va mourir. Donc, en fait, les tuiles, on les met l'une contre l'autre, comme ça, en fait, tu vois. Donc, on fait un petit... Tac.
Ouais.
Tac, un petit comme ça, et du coup ça protégera de l'orage, du gel et de la grêle quoi.
Alors, je me demandais si elles étaient comme ça, c'était pour éviter qu'il y ait vu qu'il y a fait des orages là ces derniers jours, qu'il y a un peu trop d'eau qui tombe dans le sol.
Ah non, bah là il n'y a pas de problème. Ouais. De toute façon, l'eau, je te dis, ça fait de la végétation pour le moment. On va avoir les premières tomates bientôt là. Elles sentent bon en plus. Tout ça c'est que des semis, c'est-à-dire qu'on a acheté aucun plant, 0-0. Tout ça c'est que des petites graines qu'on a semées.
De l'année dernière quoi.
Ouais, et de partout quoi. Et on en a troqué quelques-unes, on a acheté quelques-unes et. Et voilà, et du coup.
Mais tout est magnifique là. Ouais. Les haricots, c'est quoi ça?
Il y a des soissons.
Des
soissons, des haricots de soissons.
Ok.
Et après, ben voilà. Puis ça, c'est les parterres, on les prépare, on paille, et bisous quoi.
Alors le maïs aussi, vous faites.
Bah, ça, c'est du maïs tarné quoi. Donc ça, je pense que ça fait longtemps qu'il est là et c'est des variétés qui devaient bien être adaptées. Alors du coup, bah, on essaye. C'est la première année qu'on en fait.
Et un bon délire pour les maïs aussi, c'est tu mets des haricots. Comme ça, les haricots grimpent sur le pied du maïs.
Exact.
Et tu peux mettre des courges, je crois, au pied aussi. Ça fait un bon.
Bah là, les courges, on les fait monter, tu vois. Ça, ce sera les courges, je sais plus quoi. Et comme ça, en fait, ils auront des jolies formes parce qu'ils seront pas contraints par le sol.
Eh ouais. Non, mais il est fou. Moi, ça me fait rêver ces potagers.
Ouais. Bah là, on y est passé. Enfin, Pierre, il a passé beaucoup de temps, Mamie aussi. On peut aller voir le cochon.
Ah, mais ça se fait pas comme ça.
Les bruits du cochon, c'est très drôle.
Allez.
C'est très délicat comme animal. Et là du coup on va passer devant la cave, donc la cave en fait c'est assez simple, c'est pareil, il y a des tonnes de choses à dire, je suis encore mieux dedans, mais pour faire simple, moi l'objectif c'est juste de mettre le raisin le plus pur possible dans les bouteilles. Donc en fait on intervient très très peu, ça va être comme je disais les levures naturelles, donc les levures c'est juste des petits champignons unicellulaires qui vont manger le sucre et le transformer en alcool. Et à travers ça, elles vont rejeter un petit peu de chaleur et de gaz carbonique, donc c'est pour ça qu'en fait les bulles, les pétillants c'est grâce aux levures. Ça, c'est un petit oiseau, je sais pas ce que c'est.
Joli cri.
Ouais. Après, du coup, les levures, en fait, elles vont fermenter et quand elles s'arrêtent, c'est là où nous, soit on part en élevage, soit on met en bouteille pour garder le côté frais des vins jeunes, quoi. Donc, le principe de l'élevage, c'est juste d'apporter au vin de la perspective. L'objectif, c'est vraiment de mettre du raisin dans les bouteilles. Du coup, on nettoie tout le temps, c'est ça le gros travail de la cave. Et après, du coup, on arrive au cochon.
Putain, il a un bel enclos, là, hein.
Ouais, ben on a tout fait comme il faut. Par contre, il faut que je leur donne à manger, sinon ils vont faire la tronche. Donc lui, le petit, c'est juste. C'est un mangalitsa, donc c'est un porc noir. C'est un porc, pardon, d'Europe de l'Est, qui paraît qu'il a failli disparaître et qui est très très recherché pour les jambons. Parce que la viande ne perd pas, en fait, quand elle cuit ou quand elle sèche.
Ah, okay.
Et après, derrière, au fond, là...
Pour la sieste, là.
Et derrière, c'est Sissi.
Ça va réveiller, quoi.
Oh, et l'autre c'est Sidonie, donc toi lui c'est juste Mangalitsa, c'est un cochon laineux. Donc là comme il fait très chaud, il a perdu plein de poils. Et après Sissi c'est un porc noir gascon. Donc les porcs noirs gascons c'est pareil, ça a failli disparaître et ouais.
Dans le coin il y en a quelques-uns là, autour de Vaou.
Ouais, il y en a plein, ouais.
Bons élevages,
c'est là-bas qu'on a trouvé.
Et, avec Alain
Grèze. Ouais, non pas Alain, avec du coup le gaec de je sais plus quoi. Je me souviens plus.
Okay.
C'est Pierre qui l'avait trouvé. Et du coup, ça c'est Sidonie qui est pleine du coup de juste. Voilà, parce qu'on avait peur qu'il soit un petit peu juste. Donc c'est ça les graines qu'on. Toi, c'est celle qu'on sème. Toi, vas-y, renifle, ça sent le feu de nuit. Alors. Du coup, c'est les mêmes graines qu'on met dans le sol et tu vois, ça marche bien pour les sols et pour les cochons aussi, quoi.
Et donc là, du coup, elle attend des petits.
Ouais, on les aura pour les vendanges. Le premier cochon de lait au vendange. Et du coup, petit cochon de 50-60 kg, je pense, pour... non, peut-être un peu plus quand même, pour janvier. Parce que les cochons, ça se fait en janvier. Parce que comme ça, ça sèche tout doucement et du coup, tu peux faire la charcute.
Et donc elle, vous allez la garder pour,
ouais,
pour
c'est qu'elle fasse petit, quoi. Et lui, ce sera le papa. Si. Tu dis bonjour.
Allez, on l'entend respirer, c'est bon, elle est vivante.
Et voilà, ça c'est les cochons. C'est la délicatesse et la grâce. Hein. Comme ils chamaillent un petit peu pour manger. Ouais.
Et alors du coup là, toutes les graines qu'il y avait là dans
c'est ça qu'on graine. Ouais.
C'est que vous mettez entre les lignes.
Ouais, et c'est ce qu'on produit à la maison. Bah, là cette année on a fait du tournesol, donc j'en garde un peu pour l'année suivante. Et après, ouais, c'est ça.
Yes. Bah, franchement, si tu veux, on fait la pause et au pire, on fera un tour dans les caves tout à l'heure.
Tout à l'heure.
Ouais.
Vas-y.
Allez.
Vous êtes bien sur Radio Albigès, deuxième et dernière partie de ce magazine hors format consacré au domaine 5 Peyre à Cahuzac-sur-Vert dans le Tarn. On clôture à présent la visite dans le Chai, toujours en compagnie de Charles Bonafont, vigneron du domaine.
Ah, c'est mignon.
Ouais. Du coup, bah là, c'est la cave. Donc la cave, c'est assez simple. Ici, le gros du travail, en fait, c'est juste le nettoyage. L'idée, c'est que, en fait, une fois qu'on a coupé les raisins, donc tu coupes le lien à la terre, donc tu commences à les oxyder, entre guillemets. Et du coup, bah là, on va être le plus rapide, le plus efficace possible. Et donc, en fait, c'est pour ça l'intérêt du domaine, c'est qu'on a tout, au maximum, c'est à 500 mètres. Et donc, comme ça, c'est très facile d'acheminer le raisin sans qu'il ait le temps de s'altérer. Donc ensuite, on a mis le pressoir en hauteur. Comme ça, puis on monte les raisins avec la sauterelle. Et ça, tout est donc nettoyé, désinfecté. On remonte le tapis. Et en fait, ça va monter donc le pressoir, les grappes dans le pressoir. Et après, du coup, ça tombe par gravité. Donc l'avantage de la gravité, en fait, c'est que tu conserves toujours des mouvements lents et tu altères pas le jus, quoi. Donc voilà, tu préserves vraiment le raisin. Tu essaies de le garder le plus intact possible. Donc tu te donnes les moyens plutôt de le garder le plus intact plutôt que d'essayer. Et après. Et après, bon, déjà par gravité, en fait, on peut mettre une grosse cuve en dessous. Et comme ça, cette cuve, en fait, elle me permet d'être tranquille quand je vais manger. Parce que au lieu d'être tout le temps en train de vider le peu de vin qu'il y a versé, tu vois, là, on a 10 ou 15 hectos, donc tu as quasiment une heure de tranquillité. Donc tu peux aller manger, faire la sieste ou finir de nettoyer tout et après repartir, quoi. C'est un peu ça le jeu. Donc en fait, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire rapidement la différence entre le blanc et le rouge.
Bah vas-y, alors est-ce que c'est une histoire de garder la peau et
exactement, alors le blanc en fait c'est du raisin qu'on va mettre dans le pressoir directement, donc en fait on va presser, on va extraire le jus, alors que du coup comme du jus d'orange, alors que le rouge en fait on va laisser la pulpe, la peau et le pépin macérer ensemble, plutôt comme une confiture. Et du coup c'est là où on va vraiment extraire, tu vois. On va extraire des tanins, des anthocyanes, de la matière qui va faire qu'on va vraiment capter. Donc dans les macérations, t'as plein de styles. Tu peux avoir des fermentations en grappe entière, tu peux avoir des fermentations à froid, tu peux avoir des fermentations longues. En fait, du coup, pendant ces macérations, en fonction de la macération que tu vas faire, tu vas extraire plus ou moins de matière.
Ouais.
Voilà. Ensuite, pour les blancs, en fait, une fois que t'as pressé, du coup, tu travailles que le jus. Ok, donc en fait, je vois parce que du coup, derrière, c'est des grandes cuves en béton, tout ça là-bas. Et comme il y a des portes en bas, en fait, tu vois, c'est comme des cuves comme ça, alors que les cuves simples derrière, en fait, tu vois, il n'y a que des vannes. Donc pour les macérations, on peut utiliser que des cuves avec des portes parce qu'il faut ressortir le raisin. Bon, bref, c'est juste la logistique.
C'est de la résine, du coup, ça?
Ça, c'est fibre de verre, ouais, donc c'est de la résine, okay. C'est ça. Donc ça, c'est le but, c'est, en fait, c'est un peu chiant à laver, mais c'est aussi efficace que de l'inox. C'est beaucoup moins esthétique et c'est beaucoup moins cher. Mais c'est vrai que moi l'inox ça me plaît bien parce que c'est pratique à laver et ça dure toute une vie, alors que ça, tu vois, le plastique c'est comme la peinture, c'est jamais vraiment sec et du coup ça relargue un petit peu, tu sais, des phtalates, c'est une décroissance radioactive, donc ça va sécher très vite, mais par contre en fait ça va prendre toute une vie pour sécher réellement, tu vois, et du coup tu vas retrouver des produits dans ton vin, tu vois, de plastoc. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de les laisser le minimum de temps possible. Ouais. Donc ce sera plutôt inox ou béton, et après du coup on a la cave à côté pour l'élevage.
Voilà. Okay.
Bref, mais là tu vois c'est le souk parce qu'en fait c'est l'été on travaille pas à la cave, donc en fait on enfourne tout et voilà. Après du coup les protocoles pour nettoyer, c'est oxygéner, enfin c'est rinçage, oxygéner soud et après re-rinçage. Et à partir de ce moment là où on a fait ça sur tout le matériel, donc tous les tuyaux, les pompes et les cuves, et bien à partir de là on va commencer à travailler le vin. Sinon avant on ne touche pas.
Voilà. C'est parce que ça risque de...
Bah sinon, nous, ici, on travaille sans soufre et on travaille le raisin. Du coup, si tu commences à l'abîmer, si tu commences à l'altérer parce que tu n'as pas été propre, et bien du coup, ça va endommager le capital de ton vin, tu vois. Et du coup, voilà, moi, comme je vais essayer de vraiment... On utilise du soufre sur certaines cuvées, mais juste avant la mise en bouteille, pour les protéger pour la mise en bouteille, tu vois. Ouais. Pas forcément pour les couvrir et pas pour travailler avec le soufre, tu vois. C'est-à-dire que... Pour le vin, tu as deux approches, je veux dire, pour être très manichéen. Je travaille une matière première, c'est-à-dire que je travaille des données et après j'applique une recette pour un objectif. Et après, nous, en fait, on va plutôt respecter le raisin en entier, du début à la fin. Et en fait, on va essayer de l'exprimer dans sa meilleure façon, le plus naturellement possible. Donc, c'est naturel, sauf que tu vois, on utilise comme une pompe, on déplace le jus, quoi. Mais on n'a aucune intervention chimique à proprement parler dessus.
Parce que du coup, toi, c'est quoi ta vision de ce qu'on... Parce qu'il y a quand même un gros engouement autour de ce qu'on appelle le vin nature, vin naturel.
Ouais.
Pour toi, qu'est-ce qu'il y a derrière ça?
Moi, je trouve que c'est un mouvement positif. Je trouve qu'il peut y avoir beaucoup de profondeur. Je trouve qu'en fait, moi, ce que je te disais tout à l'heure, c'est en fait, je passe un bon moment avec le vin. Enfin, si je me régale, tu vois. S'il suscite des bonnes choses, etc. Des fois, des vins nature, tu peux avoir des faux goûts. Donc, je trouve que ça dessert énormément. C'est comme l'appellation, en fait. L'appellation Gaillac, tu auras des trucs hyper chimiques absolument imbuvables. Enfin, chimique, c'est des termes, mais genre, ça aura des bouts de bonbons de grande surface, tu vois. Et là, c'est une catastrophe pour moi. Je trouve que c'est pas ça, le vin, en fait. Et du coup, je trouve que ça dessert autant dans un sens que dans l'autre. Et dans les vins nature, souvent, il y a eu le travers un peu de laisser du gaz. Alors du coup, le gaz, tu sais, quand ça fermente, ce que j'expliquais, les levures, elles vont transformer le sucre en alcool et elles vont lâcher un petit peu de chaleur, un petit peu de gaz. Et ce gaz, si tu l'enlèves pas avant de mettre en bouteille, et du coup, tu peux... t'auras un petit côté un petit peu perlant et tout.
Mais genre l'ouverture de la bouteille, si
voilà,
t'as pas 10 minutes.
Ou alors tu le secoues un petit peu, ou après si t'es prévenu, finalement ça se passe bien, mais c'est vrai que si t'es surpris, c'est moins agréable. Après tu peux avoir un petit peu de réduite, enfin bref, et du coup dans les natures, des fois il y en a qui sont pas hygiéniques, qui maîtrisent pas du tout. Et du coup, si les mecs ils sont ayatollah autant à la vigne qu'à la cave, c'est-à-dire que pour moi la vigne il faut quand même que ça roule. C'est-à-dire qu'il faut que tes vignes aient de la force, elles soient belles, tu vois, elles aient de l'énergie et qu'elles soient en pleine santé, et comme ça tu auras des super raisins, tu vois. Si tu commences à être un peu faible, que tu laisses trop d'herbe, parce que du coup ta vigne elle va être complètement contrainte et du coup il n'y aura plus d'énergie dans ton vin, tu vois. Et du coup,
le fruit doit être fort.
Exactement,
pour,
exactement. Donc là, tu auras des super fermentations. Alors que si tu as des moûts pauvres, eh ben, tu auras des fermentations qui sont longues, qui galèrent. Et du coup, c'est à ce moment-là, quand tu n'as pas une bonne inertie de fermentation, du coup, tu auras des contaminations, des bactéries qui peuvent te donner des faux goûts, des levures qui vont mal fermenter, qui vont donner des faux goûts. Et du coup, faux goût, ça peut être du réduit, ça peut être de l'animal, ça peut être de la volatile, donc ce dont on parlait tout à l'heure, l'indice de vinaigre. Tout ça va être des facteurs qui vont vraiment endommager le capital de ton vin. Et ça, moi, je cherche absolument pas du tout, quoi. Mmh. Même au contraire, je trouve que le plus pur, c'est quand t'as une vigne qui va bien et du coup, ton raisin, il fermente vraiment avec une bonne dynamique. Et là, t'auras un potentiel énorme. Tu vois ce que je veux dire ? Ton vin, tu vas le porter. Et en fait, comme nous, on filtre pas non plus, et bien du coup, tu vas avoir de la matière dans le vin et du coup, tu vas lui laisser la totalité de son capital. C'est-à-dire que t'as la grappe de raisin qui va se retrouver dans ta bouteille, tu vois. J'exagère un petit peu. Mais globalement, c'est ça. Et du coup, en fait, les vins, ils vont vieillir d'eux-mêmes. Mais, tu sais, dans un sens positif, à midi, t'as pas goûté, mais de pair, par exemple, c'est un Merlot 100% sur argilo-calcaire. Donc, on a un peu d'autodérision parce qu'en fait, normalement, Merlot 100% sur argilo-calcaire, c'est les Bordeaux. Et donc là, on l'appelait deux pairs avec parce que cinq pairs, bon, bref, voilà.
Ok.
Et,
le dessin est évocateur.
Ouais, exactement.
On renverra à
ceux
bouteille.
Qui viennent chercher la bouteille. Et du coup, en fait, là, tu vois, il y a un petit peu de dépôt, mais en fait, ça évolue vers, tu sais, sur un côté un petit peu humus, un peu truffé, avec toujours ce pruneau, cette énergie qui est terrible, et un tout petit peu de gaz quand tu ouvres la bouteille, et puis après, le deuxième verre, c'est le pied. Et enfin, après, moi, je me régale avec tous les vins là en ce moment, donc c'est vraiment cool. Pareil, parce que du coup, il y a des vins, tu tâtonnes un petit peu, il y a des phases aussi, tu vois. Genre, moi, je trouve que le vin, c'est un peu une éponge émotionnelle, et toi aussi, et enfin, moi aussi en tout cas. Et du coup, tu transmets pas forcément la même chose en fonction de la dynamique que tu as autour de toi. Et du coup, il y a des périodes plus ou moins difficiles ici de transition, on va dire, et d'adaptation, etc. Et du coup, ça a fait que. Tu te retrouves plus ou moins dans les vins, tu vois. Moi, j'aime bien quand t'es en forme, tu vois, genre ça se passe bien et du coup, les vins, ils sont rayonnants, tu vois. Et
ton énergie est communiquée dans le vin.
Exactement, et ça, c'est très cool. Et du coup, tu te retrouves dedans, enfin, tu vois. Moi, je trouve que ça marche.
Et du coup, toi, ça commence, t'es quand même jeune, je te rappelle, t'as 26 ans, et sauf que du coup, t'as quand même une sacrée expérience dans la vigne. Mais du coup, est-ce que vous êtes toujours dans une phase, tu dirais que vous êtes toujours en recherche, vous commencez à vous trouver sur.
Alors, je dirais que là, on a les cuvées qui roulent, ouais. Qui font vivre le domaine, et après, tous les ans, on sort des trucs qui nous plaisent, mais en fait, je sais pas. Est-ce qu'on s'est trouvé je sais pas, je pense que pour cette période là je me suis trouvé, mais j'espère que ça évoluera comme je disais au début, en fait, qu'on est capable de s'adapter. Et tu vois, si on a des trucs des périodes hyper solaires ou des années plus froides, et j'espère qu'on n'exprimera pas la même chose dans les vins, parce qu'en fait c'est ça qu'il faut, que c'est vraiment ça, nous on est juste au service en fait de l'année, de la vigne et du vin, et on n'est pas tu vois, autoritaire, où on a trouvé un truc, un modèle qui fonctionne, et du coup on va l'exécuter systématiquement, tu vois ce que je veux dire. Mmh. Et du coup je pense que les clients ils nous suivent aussi, et les gens qui aiment le vin ils nous suivent pour ça, parce que du coup tu sais très bien que on cherche à retranscrire l'année et le vin, en fait, simplement.
Ouais. Bon, alors du coup là
on va passer dans la cave à côté.
Allez, vas-y, je te suis.
Il y a d'autres choses.
Là, c'est la cave un petit peu plus poétique.
Ah,
du coup.
Bon, ouais,
ça
ah, ouais, ouais.
Un petit peu le souk là.
Ça, c'est la cave. Ouais, ça sent bon.
Ouais, ça sent la cave. Et du coup, donc ça c'est des petits bébés. Alors du coup, bah pareil, en goûtant énormément, bah, avant on avait un rituel avec les copains qu'on essaie vraiment de renouveler là maintenant. Mais c'est vrai que, genre quand j'ai démarré, on avait démarré en même temps avec Amandine Boissel, Domaine de Brousse à côté, qui font des super bulles, et Duncan Guedes, Château de Mérague. Et après, du coup, j'avais un très bon copain qui bosse chez Vinovali, donc la grosse boîte gros faiseur, et lui, il est commercial, et on adorait goûter ensemble. Et du coup, on avait le rituel, tous les lundis, chacun ramenait une quille. Donc en plus, après, il y avait le cercle de copains. Du coup, on goûtait vraiment, tu avais cette assiduité à déguster. C'est-à-dire que bah, je buvais un petit peu moins que maintenant, par contre, je goûtais, je pense que j'étais capable de goûter 220 par semaine, mais genre sur l'année. Donc tu avais, tu vois, genre, ça fait vraiment énormément de choses. T'as 6000, puis tu vois, quand tu pars en salon un week-end, et bah, y a 420 à goûter sur le week-end, et bah, là, moi je les faisais tous, j'adorais ça, toi. Bref. Et du coup, tout ça pour dire, ça m'a amené à ça. C'est qu'en discutant avec des mecs, en goûtant des trucs, en fait, tu vois, je me suis. Enfin, moi, j'avais beaucoup plus d'affinité avec des gros volumes qu'avec des petits volumes. C'est-à-dire qu'une barrique, ça fait 225 litres. Et donc là, bon, ça, c'est que des vieilles barriques. Ça fait très, très longtemps qu'on les a. Et donc, on les garde, évidemment, parce qu'elles sont belles. On y fait attention, tu vois. Il y en a qui sont en 2004. On dirait qu'elles ont 3 ans, tu vois. Donc, et l'avantage qu'elles ont, c'est qu'elles ne boisent plus trop le vin, tu vois. C'est-à-dire qu'elles vont pas apporter le côté bois. Elles vont vraiment assouplir. Le principe de l'élevage, en fait, si tu veux, comme je te disais tout à l'heure, hein, du coup, avant d'arriver chez les cochons, le vin, t'as plus. Enfin. Hormis les macérations, le blanc, le rouge, tu as plein d'approches possibles. Tu peux avoir l'approche de juste après la mise en bouteille, je vais garder le côté fruité et fermentaire. Et donc, je le mets en bouteille très rapidement, juste après la fermentation. Tu vois, donc, comme ça, tu conserves ça, tu fiches ça, mais du coup, tu lui donnes pas forcément énormément de perspective. Après, si tu veux l'élever, en fait, le principe de l'élevage, imagine au mois de mai, juste avant la fleur. Il y a les feuilles qui vont produire des nouveaux bourgeons à l'aisselle des feuilles, exactement. Toi, donc, tu as ton sarment, juste à l'aisselle des feuilles, tu as un petit bourgeon, donc les yeux qu'on va tailler l'année prochaine. Donc, ça veut dire qu'ils ont été mis en réserve, c'est-à-dire que tu as les grappes qui sont déjà programmées un an à l'avance. Donc là, celles de cette année, hop, elles vont commencer à dormir tranquillou en entier, elles vont ressortir, allez, fin mars à début avril, tac, et du coup, nous, on va le vendanger, donc ça fait un an et demi pour avoir du raisin prêt. Tu vois, donc déjà le cycle à l'extérieur il est très long, ça prend plein d'influences, etc. Si tu le mets en bouteille décembre ou au janvier, voilà, t'as fermenté, tu conserves ça. Mais en fait, l'élevage pour moi c'est vraiment de lui refaire un cycle dans la cave. Tu vois, ici cette cave je l'aime bien parce qu'on est semi-enterré, donc là tu vois, on est enterré plus qu'en haut et là on est quasiment dehors, tu vois. Okay. Et du coup, t'as vraiment cet équilibre là où pareil, la vigne elle est enracinée en même temps à l'air, tu vois. Et du coup, le vin, tu vas essayer de lui réinspirer ça du coup en élevage. Donc l'élevage c'est simple en fait, après la fermentation, tu vas le mettre dans des contenants donc où tu sécurises, c'est-à-dire que tu as très peu de rentrée d'air, et alors nous on revient à faire le niveau régulièrement. Donc là c'est les barriques, les cuves en béton par exemple, là, c'est pareil, c'est juste une petite trappe, donc tu n'as pas d'entrée d'air, tu vois. C'est pas comme les grandes cuves avec le chapeau en haut, où le chapeau c'est comme une chambre à air, il faut la regonfler tout le temps, enfin c'est très chiant, et là tu altères beaucoup plus tes vins. Donc quand on les conserve, on essaie vraiment de pas les conserver là-dedans. Là, les blancs, on presse, par exemple. Ça, c'est la cuvée Cap de Beau, donc ça veut dire la tête des bœufs en occitan. C'est une parcelle qui est vraiment sur la pointe d'une colline. Donc là, on presse, on met directement dans la barrique. En fait, ça va fermenter dans la barrique. C'est-à-dire que les levures, elles vont métaboliser le bois aussi. Du coup, ça va être très, très assimilé dans le vin. Ce ne sera pas sur une infusion de thé, tu vois, où ça va être vraiment très marqué, très boisé, etc. Là, on sera vraiment sur quelque chose d'assez harmonieux. Et en fait, plus tu as des gros volumes, plus tu as d'inertie, tu vois. Et ça, moi j'aime beaucoup parce que du coup, l'inertie c'est intéressant parce que du coup, bah, là t'as deux rangées, là tu en as 5 et là tu en as 7 ou 8, tu vois. Et du coup, en fait, c'est pareil, tu reconserves ta parcelle, tu vois ce que je veux dire, t'es toujours dans cette même dynamique, t'as vraiment, et tu vois, c'est ça, tu vas chercher à mettre dans les bouteilles ta parcelle, ton moment, ton. Tu vois, et pas tout éclater et après réassembler en faisant le petit chimiste avec ton goût à toi, tu vois. Là voilà, c'est un peu ça l'approche. Et donc voilà, du chêne français évidemment, on essaye des tonneliers différents, on essaye des forêts différentes. Quand j'aurai vraiment trouvé ce qui me correspond et ce qui plaît ici, au vin d'ici, donc là c'est juste en dégustant hein, et avec un petit peu de temps. C'est-à-dire que là, tu vois, ce qu'on a en ce moment c'est les 2018, mais on vient à peine de finir les 2016, et pour moi ceux qui se boivent vraiment bien c'est les 2014 là maintenant. Donc tu vois, il faut, et encore, tu vois, on est qu'au début. Là j'ai des blancs, mon père il travaille tout en petite barrique, mais là des 2008, des 2009, on fait comme ça, c'est super bon, tu vois. Et après, du coup, et après, une fois qu'on a fait ça, donc l'élevage, en fait, le principe, c'est que tu le remets dans la barrique.
Ouais.
Et après, en fait, avec les levures qui sont, comment expliquer, la levure, en fait, c'est un petit peu comme des feuilles qui vont tomber. Une fois qu'elles ont plus de sucre et trop d'alcool, eh ben, elles vont mourir et elles vont tomber au fond. Donc, en fait, ça va faire une espèce de petite biomasse qui va se dégrader tranquillou. Donc, s'il y a suffisamment d'oxygène et que ça se passe bien avec le bois, t'auras pas de goût de réduit, de goût un peu fermé, etc. Alors que si t'es sur des trucs très serrés, un peu trop de soufre, ou des trucs, des mous qui se passent mal, etc., ben là, ça peut réduire, ça va fermer ton vin. Et en même temps, les levures, elles sont hyper importantes. Donc en fait, voilà, la fermentation, c'est important. Les levures, c'est très important. Donc à toi de régler quand est-ce que tu interviens ou pas. Et en fait, une fois qu'elles vont tomber, normalement, elles vont, enfin voilà, elles meurent. Après, du coup, toute cette matière-là, c'est comme pour le sol. En fait, ça va. Les arômes, imaginons que c'est des très très petites molécules. C'est, mettons, pour moi, ce sera comme un cheveu. Et sauf que s'ils n'ont pas de support, eh bien, le cheveu, il va s'envoler très rapidement avec un coup de vent. Et tu vois ce que je veux dire? Alors que s'il est tenu sur la tête de quelqu'un qui a plus beaucoup de cheveux, ou des poils de dos, c'est mieux, là. Ça, ça tient bien, ça. Ou la barbe, tu vois. Et bien ça, en fait, tu vois, si tu leur donnes un support aux arômes, c'est-à-dire que les levures, quand elles vont mourir, elles vont se dégrader tout doucement, mais du coup, ce sera des grosses molécules. Ok, et les arômes, ils vont venir se fixer là-dessus, et du coup, tu vas donner, tu vois, tu auras des arômes qui vont durer et vivre longtemps, tu vois. Sans, en fait, là, je parle sans utiliser de soufre, c'est-à-dire que quand tu utilises du soufre, en fait, le soufre, c'est un conservateur, tu blindes la dose en permanence, et comme ça, en fait, les premiers, enfin, quand il y a de l'oxygène qui arrive, c'est le soufre qui va se combiner, mais ça va conserver ton raisin. Mais du coup, là, t'es sur une donnée définie, t'auras pas d'évolution. Alors que le vin, le but, c'est de le faire évoluer avec l'âge aussi, c'est comme nous, si tu veux, c'est pas comme si tu prenais une photo et tu regardais toujours la même photo de la personne, et quand tu regardes en vrai, tu le vois faner, tu te dis merde, c'est plus pareil, tu vois ce que je veux dire, alors que là, en fait, on va le faire évoluer avec le vécu. Et ça, voilà, ça, c'est pour moi, c'est le principe de l'élevage. Quand on, voilà, c'est mon approche. Après, il y en a plein qui font de l'élevage en filtre transstérile, ils mettent en barrique après, du coup, c'est de l'infusion, et après, ils blindent en soufre tout le temps pour. Bah, c'est juste, ça dépend comment tu goûtes, comment t'aimes le vin et comment tu calcules. Voilà.
Et du coup, alors, vous faites. Il n'y a pas tout qui. Tout, toutes les cuvées sont passées en élevage ou pas tout,
des fois, alors, du coup, non. Nous, on va avoir impeccable antidote et rosé. Ça, c'est nos entrées de gamme canon. Tu vois, cette année, l'impeccable, j'ai pu le repousser à fond, bah, grâce au coronavirus, enfin, grâce et à cause. Normalement, tu vois, on le remet en bouteille fin mars, après l'équinoxe, pour repartir sur les énergies du printemps. Là, j'ai pu repousser jusqu'à mai, tu vois, donc en fait, il s'est élevé jusqu'à mai, et donc il a gagné 2 mois déjà, tu vois, c'est pas mal. Mais sinon, en fait, tous les autres, ils passent, oui, au moins 1 an dans la cave. Tu vois, là, on a les Acapella qui sont en barrique, en cuve, pardon. On a donc là, c'est, on a le Amasso, du coup, cuvée Charles, ça s'appelait avant, mais du coup, faut dire Amasso maintenant. Qui est, du coup, là, c'est ceux de 2019 et les 2018, ils sont en cave là-bas. Ça, c'est les deux paires, du coup, là et là. Okay. Enfin, voilà, du coup, on a fait un peu l'histoire. Après, bah, tu vois, des cuvées particulières, il y a du orange. La orange, par exemple, quand on prend du rosé. Le rosé, ce sera du rouge travaillé comme du blanc, c'est-à-dire qu'on presse directement les raisins, on travaille le jus, mais comme les peaux, pardon, je suis désolé.
Oh, t'inquiète.
Comme les peaux ont de la couleur, ça donne un petit peu de couleur rosée, tu vois. Les oranges, ça va être paradoxal, c'est du blanc qu'on travaille vraiment comme du rouge, c'est-à-dire qu'on va macérer pendant 1 mois quasiment, et du coup on va aller extraire la matière de la peau, de la pulpe et du pépin, et du coup on va avoir des vins oranges, c'est assez marrant. Et du coup là, bah, je vous souhaite, si ça vous a donné envie, vous êtes les bienvenus évidemment. Surtout venez aux apéros concerts parce que c'est des moments géniaux. Et puis voilà, bah, je vous laisse là-dessus. Merci Paul.
Merci Charles. Franchement, en plus, j'ai presque pas parlé. En général, c'est toujours moi qui parle. Mais là, merci. Merci pour la visite. Tout ouais. Le temps qu'on y a passé. Ça fait presque 2 heures qu'on enregistre. Je disais, je crois qu'on va faire
avec
2 épisodes.
Avec une pause repas.
Ouais, avec la pause repas entre les deux. Mais franchement, ouais, merci beaucoup pour l'accueil. On se reverra.
Ciao,
merci ouais. À toi. Ciao. Et merci à vous d'avoir suivi ce magazine sur Radio Albigès. Et puis, on vous souhaite une très bonne journée, très bonne semaine à l'écoute de notre station. Et à le Copkevé.
C'était l'émission hors format sur Radio Albigès, une émission où l'on parle d'un peu tout, mais où on raconte pas n'importe quoi.